aujourd'hui, et vous voyez combien nous sommes nombreux, deux associations se retrouvent réunies en cette salle. Alors, merci à la Société internationale, et j'insiste, internationale des Amis de la Boétie, d'avoir accédé à notre demande et de nous offrir cette conférence, la Boétie humaniste. Parmi nous, évidemment, des membres éminents, dont Patrick Lévrier, qui se fait tout petit derrière, mais qui doit être là, qui est là, au fond, et qui est le trésorier de votre association. Nous avons une pensée pour Anne-Marie Cocula, qui n'est pas là, mais qui est une fidèle conférencière et amie aussi de notre association. Et vous, Laurent Gerbier, eh bien, je vous ai écouté ce matin auprès de Cordy, devant un public d'élèves de 16 à 18 ans, plusieurs siècles de distance. Alors évidemment, vous leur avez parlé d'Étienne, car Étienne, quand il a écrit ce qu'il a écrit, il avait à peu près, lui aussi, entre 16 et 18 ans, donc un génie. Et vous leur avez dit, attention, n'allez pas chercher sur Internet. Allez donc pour la 2000 modique somme de 2 euros lire de la servitude volontaire. C'était une. J'espère que ça a été entendu. Et vous avez, et j'admire votre préoccupation de vous intéresser à ces jeunes élèves qui sont en terminale, qui préparent leur avenir, et de leur expliquer que de la servitude volontaire, ça fait partie de leur actualité. J'ai été très sensible, je vous ai admiré. J'ai admiré la façon dont que vous avez eu de se mettre à leur portée et de leur dire « Attention, ça vous concerne !» Et c'était très bien. Alors évidemment, cet après-midi, le public de l'Université du Temps Libre est bien différent. C'est de la Boétie humaniste dont vous allez nous parler et nous allons vous écouter avec attention.
Alors, on va faire un premier test très simple. Est-il nécessaire que j'utilise le micro ?
Non.
Ah, je crois que les oui l'emportent. Je le regrette personnellement, mais je crois que les oui l'emportent. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction très généreux. Vous m'avez à l'instant remercié de ma préoccupation pour ces élèves. C'est le seul mot de votre allocution que je voudrais reprendre. Cette préoccupation est un métier. Et si je parle depuis 25 ans à mes étudiants dans le cadre de mon métier, quand je viens parler aux lycéens du Pré de Cordy, ce que je fais depuis 15 ans, ou à d'autres publics scolaires qui ne relèvent pas immédiatement de ma profession d'enseignant-chercheur à l'université, je considère pourtant que c'est toujours d'un métier qu'il s'agit. Mais je fais cette rectification parce que c'est le mot même de métier qui m'intéresse ici. C'est un beau mot, c'est un vieux mot. C'est le même mot que ministre, en fait. Ménestier, en ancien français, a donné et métier et ministre. Et c'est un mot qui dit en réalité, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je commence par ce mot, c'est un mot qui dit en réalité, d'une certaine façon, l'exact inverse du mot « maîtrise » ou « magistère ». Le ministère et le magistère, le métier et la maîtrise, sont les deux manières topographiquement opposées d'aborder un savoir. Par le haut, la maîtrise, le magistère, la domination, hein, ne dit-on pas « dominer son sujet ». C'est ce que je vais essayer de faire, d'une certaine façon. Mais si je commence en parlant de métier, c'est parce que, justement, je voudrais essayer de ne pas le dominer, mais de l'aborder par l'autre voie, par en dessous, par le métier, par le ministère, celle qui consiste à commencer par se reconnaître inférieur au savoir qu'on aborde, celle qui consiste à l'aborder délibérément par le bas, plutôt qu'en adoptant cette espèce de posture de maîtrise qui consiste à considérer qu'on est, par principe, légitime à en parler. Le nom de mon ménestier, de mon métier, c'est maître de conférence. Vous voyez, dans le nom même de la profession qui devrait me conduire à aborder les métiers du savoir, on me demande au contraire une maîtrise. Je voudrais, le temps de cette conférence au moins, me dépouiller de cette maîtrise. Je vais essayer de maîtriser ma conférence elle-même, mais je ne voudrais pas maîtriser le savoir autour duquel je l'ai construite. Je voudrais au contraire reconnaître qu'il faut faire métier de ce savoir-là, c'est-à-dire l'aborder par le bas. Et une question comme celle que j'ai choisi d'aborder dans cette conférence, la Boétie humaniste, est, vous allez le voir, une question qui m'oblige à aborder ce savoir-là par le bas, c'est-à-dire en acceptant justement peut-être de ne pas le maîtriser, de ne pas complètement le clore. Je vais vous dire là des choses qui ne sont pas des connaissances que je vais vous transmettre, vous exposer, mais qui sont d'abord des questionnements, des interrogations, et dans un certain nombre de cas, des interrogations auxquelles je n'ai pas la réponse. Je vais essayer de faire en sorte que le texte de la Boétie nous pose encore des questions. Parce qu'après tout, qu'un texte qui a 100, 500 ou 1500 ans nous enseigne encore quelque chose, personne ici ne peut s'en étonner. Mais qu'un texte qui a 100, 500 ou 1500 ans continue à nous poser des questions qui font sens, alors ça c'est beaucoup plus impressionnant en réalité. Donc je voudrais me mettre à l'écoute des questions de la Boétie en acceptant de, peut-être parfois, ne pas savoir exactement ce dont il retourne dans ce texte. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai choisi de vous parler de la Boétie humaniste. Pourquoi ? Parce que pour traiter de la question de l'humanisme de la Boétie, je pourrais justement adopter une posture de maîtrise et vous dire, bah écoutez, moi qui suis maître de conférence en philosophie de la Renaissance, je sais ce que c'est que la Renaissance, je sais ce que c'est que l'humanisme, c'est mon métier de tous les jours que de l'enseigner à des étudiants, donc je vais vous exposer ce que c'est que l'humanisme et l'humanisme de cet humaniste particulier qu'est Étienne de la Boétie, et qu'il est tout à fait normal que nous célébrions ici, puisqu'à quelques encablures dans la rue, il y a la maison dans laquelle il a vu le jour et qu'avait fait construire son père Antoine, donc on est vraiment chez lui, et bien chez lui, donnons-lui toute sa place dans cet humanisme de la Renaissance et célébrons cet humaniste. Et c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire quelque chose que je suis légitime à faire et qui consisterait à le légitimer. D'abord parce que, en fait, me sentir légitime à tenir une parole, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. En 25 ans de pratique professionnelle, je l'ai beaucoup fait. Et au fond, je crois que j'en ai fait le tour. C'est beaucoup plus intéressant de se laisser surprendre et d'être dépris par son propre savoir. Et ensuite, parce que qui suis-je et qui sommes-nous tous ici rassemblés presque 500 ans après sa naissance, on fêtera son 5e centenaire dans 8 ans, en 2030, qui sommes-nous pour lui reconnaître une quelconque légitimité d'humaniste ? C'est pas ça qui est intéressant. Non, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller chercher dans quelle mesure, autour de cette question-là, la Boétie humaniste, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans quelle mesure la Boétie a quelque chose à nous dire, en fait, à nous dire sur l'humanisme, à des questions sur l'humanisme qui peuvent être intéressantes à écouter. Et je pense que de ce point de vue-là, l'actualité, disons pour utiliser un mot facile, l'actualité du texte pourra peut-être se révéler de façon plus éclatante. Quand je dis l'actualité du texte, évidemment, je pense à un texte en particulier, celui-là, de la servitude volontaire ou le contraint, puisque comme Montaigne le dit dans ses essais, sont les deux titres qui circulent, au moment où à la fin du XVIe siècle, l'écrit de la Boétie lui-même circule aux mains des gens d'entendement, dit toujours Montaigne. Il n'a pas écrit que ça, la Boétie. C'est aussi, j'en reparlerai, un traducteur du grec, un traducteur du latin. C'est aussi un poète. C'est peut-être même d'ailleurs avant tout un poète. Il a écrit des vers français, il a écrit des vers latins aussi. Et il a écrit des vers français et non des moindres, puisque certains indices, y compris d'ailleurs dans le texte de la servitude volontaire, nous indiquent qu'il a été l'ami des grands poètes du XVIe siècle, les poètes de la Pléiade, Ronsard, du Bellay, Bellot, Jean-Antoine de Baïf. Mais malgré tous ces écrits, au fond assez nombreux, pour un jeune homme qui est mort à 33 ans à Germignan d'une dysenterie foudroyante quasiment dans les bras de son ami Montaigne, malgré tout ça, ce qui est resté, c'est ce texte météorique, espèce de tout petit pamphlet de 30 pages, brûlant, qui est la servitude volontaire. C'est autour de ce texte-là que je voudrais poser la question de l'humanisme de la Boétie. Je ne vais pas aborder l'humanisme comme si, et ma longue introduction sur le métier et la maîtrise avait précisément pour but de rendre ce point très clair, je ne vais pas aborder l'humanisme comme si on savait ce que c'était. Je ne vais pas aborder l'humanisme comme si je pouvais, du haut de ma chaire virtuelle, vous en proposer une définition qui suffirait de recopier et d'apprendre, et puis voilà, l'humanisme c'est réglé. On passe au suivant, prochain isme, le rationalisme, l'idéalisme. Non. Ce qui m'intéresse avec l'humanisme, c'est précisément de commencer par accepter qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. qu'on l'utilise à tout bout de champ, mais qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Et quand je dis « on », je parle évidemment d'une part de notre pratique professionnelle à nous autres chercheurs et enseignants-chercheurs qui, à l'université, travaillons sur la Renaissance et l'humanisme. En fait, au fil des années, et à force de confrontations entre philosophes, littéraires, historiens, historiens de l'art, etc., il devient évident à quiconque a un peu de pratique que le mot d'humanisme fait partie de ces étiquettes qu'on utilise constamment, qu'on a besoin d'utiliser pour nos cours, pour nos livres, pour nos articles, pour nos séminaires, mais face auxquelles, dès qu'il s'agit d'essayer d'établir une définition sur laquelle on soit susceptible de tomber un peu d'accord, en réalité, les couteaux sortent très vite des poches, parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Alors, c'est pas du tout un mal, hein. Moi, dans cette pléiade de disciplines que je viens de citer, je suis philosophe. Donc j'ai un avantage là-dessus, c'est que les problèmes, c'est pas le moment où je commence à m'arrêter de penser, c'est le moment où je commence à penser. Ça me va très bien que ce soit un terme qui fasse surgir des conflits et des désaccords. C'est dans ce désaccord-là que je voudrais commencer par essayer de penser. Je voudrais essayer de saisir l'humanisme à partir d'une certaine forme de dissensus, disons. Et ce dissensus, c'est lui qui va m'occuper dans un premier temps, parce que c'est un mot dont la dissensualité, si vous voulez, me semble, elle, très pertinente pour notre époque. C'est un mot qu'il nous revient de penser, non pas d'abord pour comprendre quelque chose à Étienne, mais pour comprendre quelque chose à nous-mêmes et pour aller voir ensuite si Étienne ne pourrait pas nous y aider. C'est donc par l'idée d'humanisme même que je voudrais commencer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire de l'idée d'humanisme elle-même ? Ben d'abord, il faut commencer par problématiser cette notion précisément parce qu'elle est floue, et elle est floue en dehors du cercle disciplinaire et académique dans lequel je gravite habituellement. Autrement dit, ce ne sont pas seulement les savants qui ne sont pas d'accord sur ce que signifie le mot humanisme, c'est d'abord le fait qu'il circule à toutes les sauces dans notre existence. C'est un terme qui est constamment repris, galvaudé par des discours médiatiques, idéologiques, politiques, qui semblent l'employer dans des significations tout à fait différentes. Bien sûr, on entend bien quelque chose comme un noyau sémantique qui semble à peu près stable. Quand on défend des valeurs humanistes, quand on promeut un nouvel humanisme, voire quand on s'engage dans l'action humanitaire, on tourne autour d'une certaine définition de l'humain et de la dignité de l'humain qui semble invoquer un corpus de valeurs éthiques tournant autour de la dignité de l'humain et de l'universalité de cette dignité. Ce qui fait l'unité de l'humanisme, c'est donc en quelque sorte la capacité à reconnaître une égale dignité à tous les humains. C'est bien minimal, et c'est peut-être aussi plein de bons sentiments, mais enfin c'est ça qu'on entend quand on parle d'humanisme, et c'est probablement ça qui est brandi quand on le revendique comme sa propre identité, sa propre idéologie, sa propre voie dans l'existence. Néanmoins, vous serez probablement d'accord pour considérer aussi que dans le même temps, ce mot d'humanisme nous laisse entendre, fût-ce de façon un peu floue ou un peu vague, ce corpus éthique de valeurs liées à la dignité humaine, tout en nous disant qu'elles sont anciennes, ancrées dans une très longue tradition. Dans le mot d'humanisme, on entend bien aussi le fait qu'il s'agit également de se rattacher à ce corpus en tant qu'il est, disons, patrimonial. J'irais même peut-être encore plus loin, il n'est pas seulement patrimonial, ce corpus de valeurs éthiques et politiques, il est aussi l'objet d'une forme de patrimonialisation qui pourrait tout à fait laisser saisir son obsolescence. En entendant son ancienneté, en entendant l'ancienneté vénérable et louable de ce patrimoine éthique, nous entendons aussi peut-être une sourde inquiétude, est-ce que c'est bien d'actualité cette affaire-là ? Est-ce que ce patrimoine et cette mémoire ne sont pas en train de passer et de nous échapper ? J'en veux pour preuve, par exemple, les critiques auxquelles cette notion même d'humanisme est soumise depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, et à bon droit d'ailleurs, se multiplient des analyses savantes qui nous explique que cette revendication d'une égale valeur de la dignité humaine, cette revendication d'une dignité universelle de l'humanité, a été formulée par une culture européenne qui, dans les siècles mêmes où elle mettait au point ses valeurs, était en train de s'employer très activement à dominer l'essentiel de la planète. De telle sorte que derrière cette prétention à l'universalité, il y a aussi les formes très concrètes de la domination impériale et coloniale, par exemple. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, non pas parce que, c'est ce qu'on pourrait en conclure, mais ce serait un raisonnement faible, il faut donc se débarrasser de cette vieillerie, non. C'est intéressant parce que ça signifie qu'il n'est plus tellement possible d'avoir aujourd'hui un rapport à l'humanisme qui ne soit pas un rapport critique. Un rapport qui, justement, se penche, comme on est en train de le faire là, sur la chose, et essaye de comprendre les conditions précises de son engendrement. De telle sorte que l'humanisme ne serait pas tant obsolète que toujours à reprendre, à réexaminer, à recritiquer. Mais cette hypothèse que je suis en train de travailler là très rapidement devant vous et qui nous dit « oui, l'humanisme au fond, ça peut être le nom d'une époque, et d'une époque en train de passer », elle a aussi une autre incarnation qui est très précise dans le vocabulaire et que vous avez forcément déjà entendue. Depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, en effet, se multiplient des travaux scientifiques, et parfois il faut bien le dire des travaux pseudo-scientifiques, ou bien des œuvres de fiction, des œuvres littéraires, cinématographiques, etc., qui spéculent sur la possibilité d'un nouvel âge de l'humain, qu'on appellerait le post-humanisme ou le trans-humanisme. Et qu'il s'agisse d'en faire le thème de certaines fictions, ou l'objet de certains travaux des sciences humaines et sociales, ou des neurosciences, ou de la génétique, ou de la biologie, ou de la médecine, dans tous les cas, il s'agit bien d'envisager la possibilité que, précisément, l'humain ne soit qu'une époque, l'humain ne soit qu'un âge. Dans ce cas, l'humanisme, précisément, accéderait à la dignité de ce qu'on appelle en histoire un chrononyme, un nom d'époque, exactement comme la modernité, ou comme la Renaissance, auquel d'ailleurs, très souvent, l'humanisme est superposé de façon quasiment synonymique. J'y reviendrai. En tout cas, ce qui m'intéresse dans cette affaire, ça n'est pas tellement de défendre l'humanisme contre le post-humanisme ou le transhumanisme, c'est simplement de constater qu'aujourd'hui, dans les discours savants comme dans les discours de la fiction, quelque chose circule qui nous dit que peut-être l'humanisme n'est que le nom d'un âge de l'homme. Et donc, je voudrais simplement nous rendre collectivement attentifs au fait que dès qu'on utilise le mot humanisme, on se pose la question de son identification historique. On se pose la question de savoir si par hasard, l'humain ne serait pas un moment. Alors cette question-là, pour le coup, moi comme philosophe, elle m'intéresse beaucoup, parce qu'elle nous renvoie à notre propre finitude, non pas comme la philosophie a l'habitude de l'affronter depuis les moralistes antiques, individuelle, non pas la question du memento mori, la question qui consiste à méditer le fait que nous avons à mourir en tant qu'êtres vivants. Non, non, cette fois-ci, elle interroge notre finitude, mais comme genre. Elle nous demande si par hasard l'humain ne serait pas une époque destinée à passer. Et si on veut bien s'arrêter sur cette hypothèse une seconde, on considérera aussi qu'il y a un autre mot qui circule dans le langage contemporain et qui finalement nous dit la même chose. Il y a un autre mot qui nous dit que peut-être l'humain est une époque. Il y a une autre façon de faire, pour le dire autrement, de l'homme un âge. C'est ce mot qui a été proposé dès le milieu des années 90 par des géologues et des biologistes, et qui fait l'hypothèse que désormais, notre empreinte collective comme espèce sur notre propre écosystème à l'échelle planétaire est devenue tellement importante qu'elle mérite que nous baptisions une nouvelle ère géologique du nom d'humain. Et puisqu'en grec humain se dit anthropos, nous l'appellerons donc l'anthropocène. Est-ce qu'au fond, l'humanisme comme chrononyme n'aurait pas quelque chose à nous faire penser de la notion d'anthropocène comme chrononyme? La première, dans son obsolescence légère que j'ai essayé de rendre sensible, nous obligerait à nous demander si par hasard l'humain n'est pas en train de passer. La seconde, l'anthropocène, nous dit non, au contraire, le véritable âge de l'humain est hélas en train d'advenir. Je pense que c'est dans ce paradoxe apparent et dans les inquiétudes qu'il ouvre que se joue exactement le type de lecture que j'ai envie de faire de la Boétie. On a l'air là d'être très loin de la Boétie dans ce que je dis, mais quand je pointais en commençant le fait que je n'avais pas envie de vous présenter une maîtrise de l'auteur, mais au contraire de me mettre par métier à son service, de l'aborder par le dessous et humblement, c'est ça que je voulais dire. Laissons-nous inquiéter par certains mots dans les tensions et dans les failles qu'ils indiquent. Ben là, en voilà une très belle de faille. Est-ce que quand nous nommons l'époque de l'histoire, du nom même d'humain, nous désignons le fait que nous sommes en train de passer la main ou au contraire en train de prendre un pouvoir catastrophique et définitif sur notre environnement. Ça, c'est un enjeu intéressant de la manière même dont nous manions et nommons les époques. Alors, l'humanisme est intéressant pour penser ça, entre autres parce que, j'y ai fait allusion tout à l'heure, en réalité, il fonctionne déjà un peu comme un chrononyme, en particulier dans les études de lettres, d'histoire ou de philosophie, ou d'histoire de l'art, ou de musicologie, parce qu'on a pris l'habitude, justement, de faire de l'humanisme le nom d'une époque. Pour certains de mes étudiants, quand on aborde pour la première fois la question de la philosophie de la Renaissance, qui n'est pas la période la plus travaillée quand on fait un cursus de philosophie, en fait, humanisme, Renaissance, bon, c'est un petit peu la même chose, ça se recoupe un petit peu. C'est un des noms de la Renaissance, c'est un nom savant de la Renaissance. Ils acceptent l'idée que peut-être la Renaissance nomme une époque dans tous ses aspects, matériels, culturels, symboliques, économiques, etc. Tandis que l'humanisme, c'est peut-être un nom d'époque un peu plus spécialisé. C'est le nom d'une époque de la pensée, c'est le nom d'une époque de l'intellect, c'est le nom d'une époque de la culture, peut-être même le nom d'un courant. L'humanisme, ce serait un ensemble de pratiques du savoir qui se serait développé quelque part entre la fin du XIIIe et le début du XVIIe siècle, et qui définirait à travers toute l'Europe occidentale des manières communes de considérer les textes, les savoirs et les langues de l'Antiquité. C'est pas une mauvaise façon de le définir, ça. C'est une façon un peu scolaire de le définir. Et ma foi, elle me semble pas mauvaise. Elle me semble pas mauvaise parce qu'elle nous dit précisément que l'humanisme, ce sont des manières de pratiquer le savoir, de le concevoir, de le construire, et puis aussi de le diffuser. Évidemment, pour les hommes de la Renaissance qui se sont eux-mêmes pensés comme des humanistes, parce que si le substantif humanisme est une invention historiographique du XIXe siècle, en revanche, l'adjectif humanista, eux, se l'attribuent, ça définit pour eux quelque chose de très simple. Ça définit le fait qu'ils se reconnaissent dans ce qu'un certain nombre de lettrés italiens du XVe siècle appellent les studia humanitatis, les études d'humanité. Qu'est-ce que c'est les études d'humanité? C'est ce qui ne correspond précisément pas aux études de la divinité. C'est ce qui ne correspond pas aux sciences divines. C'est les choses simplement humaines. Et ils ont évidemment en tête un auteur que tous ont lu, depuis son époque à lui jusqu'à notre époque à nous. C'est probablement l'auteur dont on n'a jamais besoin de se demander si un lettré l'a lu. Oui, il l'a lu, c'est Cicéron. Le grand instituteur, en fait, pendant pratiquement 2000 ans. Cicéron utilise le terme « humanitas », humanité en latin, pour en faire le contenu de la formation de l'orateur accompli. Et qu'est-ce que c'est que l'humanité? C'est précisément ce corpus de valeurs éthiques et politiques, civiques, que j'évoquais en commençant. La reconnaissance de l'éminente dignité de l'homme et de son universalité. Et c'est un mélange d'éducation rhétorique, esthétique, morale et civique qui doit être le contenu même du savoir de l'orateur au service de sa cité. C'est à ça, au fond, que pensent nos lettrés italiens du XVe siècle quand ils disent « Nous, ce qu'on fait, c'est des studia humanitatis. On fait des études d'humanité. » Et c'est dans ce sens qu'on peut dire que ce sont des humanistes. Ce sont des humanistes parce qu'ils sont attachés à la redécouverte des langues et des cultures de l'Antiquité. Dans le même mouvement, ils vont d'ailleurs inventer le Moyen-Âge. Ils vont inventer le Moyen-Âge pour définir tous ces siècles qui, avant eux, n'ont pas fait le boulot, n'ont pas réussi à faire ça. Et qu'on va désormais définir comme obscur. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, quand on utilise en histoire, en lettres ou en philosophie cette périodisation et qu'on dit Moyen-Âge, en fait c'est très commode, on a un mot à écrire sur un label et qui nous permet de prendre un millénaire entier d'histoire et de dire pouf, de la mort de Romulus à Augustulé, Romulus petit Auguste, le dernier empereur, dit-on, jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs ou jusqu'aux fameuses grandes découvertes de Christophe Colomb. Chaque fois qu'on dit « grande découverte », j'ai la même image en tête, celle d'un cartoon américain de 1992 qui, pour le 5e centenaire de la découverte de Christophe Colomb, représentait des Indiens caraïbes sur leur plage, sous leurs palmiers, avec une galère, une caravelle qui arrivait, puis il y en avait un qui gueulait aux autres. « Eh, ça y est, ils nous ont découvert !» C'est intéressant de garder ça en tête. C'est intéressant de bien se souvenir qu'en fait, la découverte, c'est la découverte de quelque chose qui était déjà là. Mais au fond, il y a plein de découvertes qui sont des découvertes de quelque chose qui était déjà là. Fin de la parenthèse. Bref, on invente le Moyen-Âge comme cette vaste étiquette de 1000 ans qui va nous conduire de la chute de Romulus à Augustulé jusqu'à la fameuse découverte de l'Amérique. Et on dit, voilà tout ça, c'est les temps obscurs, c'est les âges sombres, c'est l'infélicité et les calamités des Goths, comme dit Rabelais. Nous, au contraire, nous qui faisons des studia humanitatis, disent ces humanistes italiens, puis français, puis néerlandais, puis anglais, puis allemands, nous sommes l'éveil. Nous, nous sommes la lumière. Nous, nous sommes plus précisément encore le retour de la lumière. Nous récupérons quelque chose qui avait été perdu. Ah, alors ça, ça m'intéresse aussi parce que tout d'un coup, vous voyez que je suis en train de réfléchir sur ce que ça signifie que l'humanisme comme nom d'une époque. Tout d'un coup, dans cette idée que l'humanisme nomme une époque, dans cette idée que l'humanisme est une façon de considérer l'humain comme nom d'une époque, vient s'ajouter une complexité supplémentaire. Cette complexité supplémentaire, elle tient au fait qu'en réalité, nous ne nous nommons comme époque présente que dans la référence à un très lointain passé auquel nous choisissons de nous rattacher. C'est ça que font en fait tous ces défenseurs des studia humanitatis. Ils disent, nous voulons aller récupérer les textes anciens. Et les récupérer, c'est pas une métaphore. Les récupérer, c'est un travail pratique. C'est Pétrarque qui gravit sur son âne les cols les plus escarpés de la vallée du Rhin pour aller dans la moindre abbaye, toquer à la porte en plein hiver et regarder si par hasard, au fin fond d'une bibliothèque, il n'y aurait pas tel manuscrit de Cicéron ou tel manuscrit de Tite Live qui mériterait d'être recopié parce qu'il était perdu dans la mémoire des hommes. C'est une récupération très matérielle des textes et des copies. Et des copies qu'on s'envoie et qu'on se fait lire. Ah, ça c'est intéressant aussi, parce que ça signifie tout d'un coup que dans l'idée d'humanisme, il n'y a pas seulement ce rapport temporel très complexe qui dit que nous ne sommes le présent qu'en tant que nous avons décidé de pratiquer collectivement une certaine mémoire du passé et sa réactivation. Ça dit aussi que ça ne se fait pas tout seul. Pas tout seul au sens où ça n'est pas une activité solitaire. L'humanisme, dès ces lettrés italiens du XIVe ou du XVe siècle, c'est une certaine forme de sociabilité. Qu'on l'appelle sodalitas, ou brigade, ou pléiade, ou république des lettres, ou tout autre de ces noms qui circulent pour définir ces groupes, ces cénacles, ces cercles, qui s'échangent d'un bout à l'autre de l'Europe des lettres, qui se recopient des bribes de textes, qui comparent leurs versions, et puis qui aussi bataillent, sont en désaccord, s'engueulent les uns avec les autres. Dans tous les cas, c'est un réseau, c'est un groupe, c'est une multitude de savants qui travaillent ensemble et qui ont la conscience de mener ensemble, dans cette espèce d'existence réticulaire qui les voit s'étaler sur tout le territoire de l'Europe, un travail commun. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, leur existence va se poursuivre au XVe, au XVIe, et même encore au XVIIe siècle. Au début du XVIIe siècle, en pleine guerre de 30 ans, la guerre de 30 ans, c'est ce gigantesque conflit qui déchire l'Europe de 1618 à 1648, qui va laisser l'Allemagne exsangue, par exemple. Cette guerre de 30 ans qui voit toutes les puissances européennes qui, bon, après avoir passé pratiquement un siècle à considérer que le meilleur cours de tennis pour aller régler leurs problèmes, c'était l'Italie, changent de crèmerie et décident que non, désormais, le bon endroit pour se taper sur la figure, c'est plutôt quelque chose qui se situerait au nord de l'Allemagne, aux confins de l'actuelle Belgique, pas très loin de Maastricht, hein, là où un certain Descartes a passé l'hiver dans un poêle à inventer le cogito. C'est là qu'on se bat, désormais. Cette guerre de 30 ans qui va dévaster cette région, elle n'empêche pas les réseaux de la République des Lettres de continuer à fonctionner, et les lettres traversent les lignes de front, et un savant néerlandais peut écrire à un Italien catholique, et un Italien catholique peut écrire à Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society à Londres, et les lettres passent, et la circulation du savoir continue à passer. C'est aussi ça, l'humanisme. C'est aussi cette idée, et cette idée pratique, cette idée concrète, d'un réseau d'écritures et d'écrivains qui correspond en permanence. Alors vous voyez que ça fait de l'humanisme un objet complexe, un objet qu'il est possible d'attraper par plein de figures différentes. Et vous comprenez aussi pourquoi, pour le philosophe, un problème, c'est là qu'on se met à travailler, c'est là que ça devient intéressant de travailler, parce que cette complexité, moi, elle ne me rebute pas. Cette complexité, elle dit qu'il y a plein de poignées pour attraper cet objet. Je peux le prendre par des tas de bouts différents. Et ce que je voudrais essayer de faire, c'est essayer de comprendre si et dans quelle mesure on ne pourrait pas considérer que la Boétie, dans son petit texte, écrit probablement quelque part entre 1548 et 1554, aurait quelque chose à dire, ou correspondrait d'une manière ou d'une autre, à ces différentes pratiques que je viens très rapidement de décrire et qui sont, me semble-t-il, les questions que le mot humanisme peut nous poser aujourd'hui. Alors pour essayer de faire ça, qui va occuper la deuxième moitié de ma conférence, puisque j'ai déjà grillé la moitié du temps qui me mettait imparti, simplement pour vous parler d'humanisme, mais après tout, ça s'appelait la Boétie humaniste, la moitié sur l'humanisme, la moitié sur la Boétie, j'ai l'impression que je suis dans le contrat. Donc maintenant qu'on n'a pas rien parlé d'humanisme, on va essayer de regarder si la Boétie correspond, non pas à la définition, puisque vous avez bien vu que je n'ai pas donné de définition, mais plutôt à l'écheveau de problèmes que je viens d'essayer de présenter. Et pour faire ça, je voudrais commencer par une chose extrêmement simple. Je voudrais commencer par voir de quelle manière on peut considérer que la Boétie lui-même appartient à ce cercle de passionnés des studia humanitatis que je viens de décrire, qui définit les humanistes de la Renaissance. Alors bien sûr, je pourrais aborder ça d'une manière qui est tout simplement scolaire, puisqu'après tout, c'est d'abord un programme de formation, les studia humanitatis, hein, Cicéron le disait déjà. Est-ce que la Boétie correspondrait à ça? Mais là, la réponse est très simple à donner. Oui, bien sûr, il correspond à ça. Bien sûr. Et encore, il correspond à ça, on est obligé de lui en donner le crédit, alors qu'on sait très peu de choses de sa vie. On sait qu'il naît ici, en 1530, qu'il est le résultat de cette espèce de progression sociale absolument fulgurante qui affecte un certain nombre de familles du Sud-Ouest à partir de la fin de la guerre de Cent Ans. En gros, à partir du moment où les Anglais sont définitivement boutés hors du territoire de la Guyenne, tout d'un coup, les échanges économiques vont pouvoir reprendre, on va pouvoir se remettre à cultiver les terres sans qu'elles soient régulièrement ravagées par une bande de mercenaires ou de pillards, et là on va avoir des gens qui vont se mettre à prospérer. La Boétie est le résultat de trois générations de ces périgourdins qui se remettent à dire « en fait, on peut travailler ». Et on peut travailler, ça veut dire on peut cultiver la terre, on peut entretenir des relations commerciales qui vont de la Méditerranée à l'Atlantique, parce que désormais, envoyer une charrette de produits sur les routes, c'est plus la certitude qu'elle va être détournée par des pillards. Donc on peut se remettre à faire du commerce. Donc on peut s'enrichir. Donc alors que l'arrière-grand-père était lui-même un petit propriétaire terrien des environs de Sarlat, ben, le grand-père lui-même commence à prendre des responsabilités dans les syndics de la ville, le père lui-même est secrétaire du lieutenant général de Guyenne, et puis le fils va marcher sur les brisées du père. Alors, il va marcher indirectement sur les brisées du père, puisqu'il est orphelin de père très tôt, il est élevé par son oncle, Étienne, comme lui. Et là, on a peu de renseignements. On en est réduit à des spéculations sur où est-ce qu'il va exactement faire ses études. On n'a pas retrouvé de traces de lui dans les grands collèges où la notabilité montante de ce premier XVIe siècle envoie ses enfants. Il n'est pas à Bordeaux, mais probablement pas à Toulouse. Peut-être, certains biographes en font l'hypothèse, est-il à Paris? Peut-être est-il envoyé à Paris, d'abord parce qu'il est manifestement brillant. Sa carrière nous le montre, c'est un excellent traducteur du grec et du latin. En fait, même sans aller regarder ses traductions que Montaigne a publiées en 71, il suffit de regarder La servitude volontaire. Je vais en redire un mot tout de suite, mais elle s'ouvre sur une citation d'Homère qu'il a lui-même traduite. Et on y trouve un peu plus loin une longue citation de Virgile qu'il a également traduite. C'est donc un latiniste et un helléniste émérite. Et ça suffirait à lui valoir le titre d'humaniste dans ce milieu du XVIe siècle. La première trace qu'on ait de lui, elle ne nous dit pas qu'il est à Paris, ça on le conjecture. On le conjecture aussi parce qu'il y a dans La servitude volontaire un long passage qui fait l'éloge de la poésie contemporaine, justement de Ronsard, de Bellot, de Baïf, et qui semble indiquer qu'il les connaît très bien, notre Ronsard, notre Bellot. Il les connaît même tellement bien qu'il parle dans un texte qui ne peut pas avoir été écrit après 1554, pour des raisons que je vous épargne, de la Franciade de Ronsard. Or la Franciade n'est pas publiée. Et on sait simplement que dans les premiers mois de 1554, Lancelot de Carles, évêque de Riez, qui est un proche du roi, en a lu les premiers extraits au roi. Il se trouve que Lancelot de Carles est le frère de Marguerite de Carles, que la Boétie a épousé cette même année 54. Il est vraiment très proche de ces cercles-là. C'est un humaniste aussi dans ce sens-là, un poète proche des poètes. La première trace qu'on ait de lui, c'est en 1553, l'édit qui nous dit qu'il est licencié de droit de la faculté d'Orléans. Ça aussi, d'une certaine manière, ça fait de lui un humaniste. Quand on sait ce que c'est que l'éducation juridique d'un étudiant du XVIe siècle dans une faculté comme celle d'Orléans, qui est une des plus grandes facultés de droit du XVIe siècle, hein, avec Bourges, on sait que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été justement à l'école du droit romain, à l'école des textes antiques. On le lui reprochera d'ailleurs. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'humanisme a même été, à cause de cette formation scolaire imparable, qui est celle du jeune génie qu'est la Boétie, l'humanisme a été un argument qu'on a brandi du XVIe au XIXe siècle pour expliquer que ce livre ne valait pas vraiment la peine qu'on s'y intéresse. Je m'explique. Lorsque Montaigne, dans les Essais, consacre son chapitre « De l'amitié », le chapitre 28 du premier livre des Essais, à son ami la Boétie. Il nous dit qu'il va faire figurer au centre de ce chapitre la servitude volontaire. Et d'ailleurs, il en fait le projet d'architecture de tout le premier livre des Essais. C'est un tombeau de la Boétie. Et puis au dernier moment, le texte n'est pas dans ce chapitre des Essais. Il renonce à le publier. Pourquoi est-ce qu'il renonce à le publier ? Il renonce à le publier parce qu'entre-temps, le texte a été imprimé dans des recueils de pamphlets protestants anti-monarchiques. C'est un texte qui hurle que toutes les monarchies sont des tyrannies. Au moment où les protestants sont eux-mêmes en train d'expliquer que précisément la monarchie française se comporte de façon tyrannique avec eux, c'était très tentant de prendre ce texte et de le joindre à leur recueil. Montaigne, qui est loyaliste, dit « Ah non, le texte a été récupéré, je ne peux pas m'amuser en une si malplaisante saison, dit-il, à le faire figurer dans mon œuvre, donc je le retire. » Mais il ne se contente pas de le retirer, il essaye d'exonérer son ami mort de cette accusation latente de protestantisme qui du coup pèse sur lui. Et comment s'y prend-il ? Il nous dit que c'est un discours que la Boétie a écrit vers 16 ou 18 ans, donc pour réagir à la répression brutale par le connétable de Montmorency de la révolte des Pitots, hein, la grande révolte de la Guyenne contre la Gabelle. Effectivement, en 47, 46, 47, 48, tout le grand sud-ouest se soulève, de Saintes et Cognac jusqu'à Périgueux et Sarlat. Bordeaux est un des épicentres de ce soulèvement, et lorsque le soulèvement a pris trop d'importance et que les émeutiers s'en sont vraiment donnés à cœur joie, ils s'en sont tellement donnés à cœur joie qu'ils ont fini par étriper au sens strict le gouverneur de Bordeaux, Tristan de Monins. Montaigne, à 14 ans, a assisté à ça, et il en garde un souvenir absolument terrorisé dont les essais rendent compte. À ce moment-là, la monarchie décide que ça suffit et on envoie le connétable de Montmorency mettre les canons du roi devant Bordeaux, réclamer les clés de la ville, pendre une vingtaine de meneurs aux murailles de la ville et la déchoir de son statut de parlement pendant quelques années. Et Montaigne nous dit, il a écrit ça à 16 ou 18 ans, sous-entendu, en fait, le texte de la Boétie ne parle pas de la monarchie française des guerres de religion, ne parle pas du conflit entre catholiques et protestants, ça parle de la répression de la Gabelle. C'est un jeune homme. Et puis il ajoute, il l'a écrit par manière d'exercice, en fait. C'est un écrit de collégien. Au fond, Montaigne laisse entendre, et certains de ses lecteurs au XVIe siècle vont s'engager dans cette voie, que c'est un exercice de collégien. C'est un jeune homme à qui on a farci la tête des idéaux républicains de la Rome finissante. Et évidemment, vous pensez bien que quand on a passé des années à l'université à lire, à traduire et à répéter du Cicéron, du Tacite et du Tite-Live, ben on finit par avoir la tête qui chauffe un peu. Voilà qu'on vit en monarchie et qu'on se fait injecter du républicanisme toute la sainte journée à l'école. Ben un jour, on fait une dissertation qui dérape un peu. Rien de plus. Et cet argument ne se cantonne pas au seul XVIe siècle. En plein XIXe siècle, Sainte-Beuve, dans les causeries du lundi, le répète. Il nous dit « Non, c'est scolaire. C'est une dissertation, c'est un exercice de collégien. » Reconnaissant la qualité de l'éducation humaniste de la Boétie, pas pour en faire un éloge, mais pour dépolitiser le texte, d'une certaine manière. Ah, voilà encore un biais par lequel l'humanisme est intéressant. Est-ce que la Boétie humaniste, on peut aussi le prendre par ce biais-là ? Est-ce qu'on peut dire que la Boétie humaniste, ça veut dire au fond la Boétie scolaire ? La Boétie collégien un peu jeune, répétant des idées qu'il ne comprend pas très bien dans un temps qui n'est pas approprié. C'est une question qui est ouverte. En tout cas, si c'est un humaniste, cela doit se marquer par un certain rapport à la culture et à la langue antique. Ce rapport à la culture et à la langue antique, on le voit en réalité à l'œuvre dès les premières lignes de la servitude volontaire. Pourquoi ? Parce que ces premières lignes de la servitude volontaire, elles sont de Homère. En fait, la servitude volontaire s'ouvre sur une citation d'Homère. La voilà, cette citation. Vous avez là l'incipit du discours. J'ai utilisé le manuscrit d'Homère, qui est un des manuscrits qui sert le plus couramment de base aux éditions actuellement en circulation. J'en ai simplement modernisé l'orthographe. Il y a de nombreux autres manuscrits désormais, mais je m'appuie sur cette tradition ancienne, parce que pour ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ça va très bien comme ça. D'avoir plusieurs seigneurs, aucun bien je n'y vois, qu'un sans plus soit le maître et qu'un seul soit le roi. Voilà deux vers du chant 2 de l'Iliade traduits en alexandrin par la Boétie. Et quand on connaît les autres traductions de l'époque, c'est une très belle traduction en fait. Et la Boétie, après avoir donné ces deux vers d'Homère, nous dit « Ce disait Ulysse en Homère parlant en public ». Effectivement, il cite le chant 2 de l'Iliade, c'est Ulysse lui-même qui s'adresse au chef des Achéens, au chef des Grecs, massé devant Troie, et qui, pour calmer un début de grogne parmi ces différents chefs grecs, leur dit « En gros, calmez-vous, il n'y a qu'un patron. D'avoir plusieurs seigneurs, aucun bien, je n'y vois. Qu'un sans plus soit le maître et qu'un seul soit le roi. » La Boétie reprend et dit « Ah, voilà ce que disait Ulysse dans Homère. Parlant en public, c'est important, parce que vous allez voir que ça va revenir dans quelques lignes, le fait qu'il parle en public. » Et il commente avec presque de l'amertume. S'il n'eût rien dit plus, sinon d'avoir plusieurs seigneurs, aucun bien je n'y vois, c'était autant bien dit que rien plus. Si c'était arrêté à dire que plusieurs seigneurs c'est très mal, ça aurait été parfait. Ça c'était vrai. Mais au lieu que pour le raisonner, autrement dit, pour en parler rationnellement, il fallait dire que la domination de plusieurs ne pouvait être bonne, puisque la puissance d'un seul, dès lors qu'il prend ce titre de maître, est dure et déraisonnable, il est allé ajouter tout au rebours qu'un sans plus soit le maître et qu'un seul soit le roi. Autrement dit, la démonstration, la vraie démonstration, à valeur de preuve, celle qui était rationnellement correcte pour le raisonner, c'est celle qui disait « comme la domination d'un seul est dure et déraisonnable, alors la domination de plusieurs c'est encore pire ». Voilà que Ulysse a fait un sophisme, il a dit « la domination de plusieurs est mauvaise, c'est la domination d'un seul qui est bonne ». Pourquoi ? Parce que ce qui gêne Ulysse, c'est plusieurs, et ce qui gêne Étienne, c'est domination. Et Étienne nous dit, il en faudrait d'aventure excuser Ulysse, auquel possible l'or était besoin d'user de ce langage pour apaiser la révolte de l'armée, conformant, je crois, son propos plus autant qu'à la vérité. Voilà pourquoi il était important qu'il précise parlant en public. Parce qu'en fait, il ne traduit pas juste de vers. Il connaît par cœur ce chant 2 de l'Iliade, et il connaît très bien la situation dans laquelle se trouvent les Achéens au moment où Ulysse s'exprime ainsi. Et il dit attention, n'oubliez pas qui est Ulysse. N'oubliez pas qui est Ulysse. Ulysse, c'est le rusé. C'est même celui dont l'adjectif propre, l'épithète qui le qualifie constamment dans Homère, est panurgos, le panurge, celui qui peut tout faire. Panurgos, ça veut littéralement dire en grec celui qui peut tout faire. Ulysse panurgos, c'est Ulysse le rusé, Ulysse le polypotent, celui qui est capable de tout. En grec, c'est le même adjectif qui, par exemple, dans les traités de zoologie d'Aristote, qualifie le renard. C'est le rusé, c'est le malin, c'est le futé. C'est ça l'essence même d'Ulysse. Ulysse, c'est un héros comme les autres, hein, quand il faut montrer ses muscles, quand il faut être joué par Brad Pitt, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, c'est celui qui va plutôt avoir tendance à résoudre les problèmes par la raison et par la ruse, en montant des machinations, des réflexions, des artifices rationnels. Et donc la Boétie nous dit, 1. Je sais citer Ulysse dans le texte et le traduire. 2. Je ne le cite pas pour m'en servir de modèle ou pour le révérer, je le cite pour le critiquer. Je le cite parce qu'à mon avis, il se plante. Et 3. Attention, je connais vraiment bien le texte, c'est Ulysse, c'est le rusé. En fait, il ne se plante pas. Les temps lui commandent de s'exprimer comme ça. Il ne le pense pas forcément, mais là, il a besoin de dire ça. Il n'empêche que je pense que c'est faux. Mais je pense que lui, il le dit pour des mauvaises raisons. Alors, en fait, cet argumentaire est d'une extrême habileté, et en fait d'une habileté enchâssée. Pourquoi ? D'abord parce que il faut faire crédit à la Boétie, précisément parce que c'est un humaniste, autrement dit, un amoureux des belles lettres, un praticien des studia humanitatis, d'une excellente connaissance non seulement du grec, mais de ce chant de l'Iliade. Qu'est-ce qui se passe dans ce chant de l'Iliade ? Il faut aller y voir. Il faut aller voir ce qui se passe exactement dans ce chant de l'Iliade. Au début du chant 2 de l'Iliade, Zeus décide d'envoyer un songe à Agamemnon pour le tromper, qui est un songe dans lequel il lui fait croire qu'il aura la victoire face à Troie. Et Agamemnon, rassuré par ce songe prophétique, pseudo-prophétique en réalité, que lui envoie Zeus par ruse, décide d'une machination pour tester la fidélité des chefs grecs, comme maintenant il sait qu'il va gagner, il décide de mettre à l'épreuve leur loyauté et de leur demander s'ils veulent continuer à mener la guerre contre Troie ou rentrer chez eux. Et voilà tout d'un coup que les chefs grecs à qui on met cette alternative entre les mains se réunissent sur la plage entre leurs bateaux et commencent à discuter entre eux pour savoir s'ils veulent rentrer ou pas. Puis il y en a qui s'engueulent en disant « Mais t'as pas à prendre cette décision, c'est moi ton roi. Oui, mais c'est Agamemnon le roi des rois. On ne sait plus qui est roi de qui. » Et Ulysse, qui a été averti de la machination de Zeus, et qui sait donc qu'en réalité les chefs sont en train de tomber dans un piège que leur a tendu Agamemnon, qui était lui-même tombé dans le piège de Zeus, se met à courir parmi tous les feux des Athéniens en leur disant « Arrêtez, 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 arrêtez ce débat !» C'est un débat qui se fait complètement à fausses enseignes, pour parler comme Montaigne. Personne ne vous a demandé votre avis, en réalité, il ne leur dit pas que c'est un piège, mais il sait que c'est un piège. Et pour arrêter ce débat, l'argument qu'il utilise, c'est celui-là. La domination de plusieurs n'est pas bonne. Arrêtez de vous prendre tous pour des chefs. Il n'y a qu'un chef. Il n'y a qu'un chef. Arrêtez. C'est un piège. Donc on est en fait dans une situation dans laquelle Ulysse est ici en train de ruser, c'est ce que nous dit Étienne, Mais Ulysse est en train de ruser pour essayer de désactiver les effets d'une ruse d'Agamemnon qui lui-même est tombé dans les filets d'une ruse de Zeus. C'est un empilement de machination. Et c'est au terme de cet empilement de machination que la Boétie nous dit. Et l'argument de la sagesse ancienne, l'argument de ce grand précepteur de toute la Grèce qu'est Homère, en fait, c'est le résultat d'un empilement de tromperies. C'est là-dessus qu'on appuie la révérence qu'il faut avoir pour la domination d'un seul et pour la monarchie. C'est du vent. C'est du vent. Même pour Ulysse le rusé, c'est un empilement de ruses dans lequel il finit plus par ne plus s'y retrouver lui-même. Alors, c'est très habile de la part d'Étienne d'avoir commencé comme ça, parce que cet argument-là, l'argument d'Ulysse dans le chant 2 de l'Iliade, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs seigneurs, il faut qu'il y en ait un seul. C'est un argument qui est constamment brandi au service de la monarchie, au service de la domination d'un seul. Et là, en fait, la Boétie est en train de nous dire, mais vous êtes allé regarder? Vous avez fait le travail d'aller regarder le texte? Autrement dit, vous avez fait le boulot critique? Alors là, on a un sens fort de l'humanisme. L'humanisme, c'est pas simplement l'amour des belles lettres et la révérence pour les savoirs antiques. L'humanisme, c'est ce qui nous enjoint à, d'une part, garder la mémoire patrimoniale des savoirs anciens et d'autre part, à la garder de manière critique, à la garder sous un rapport critique. Ça, c'est une leçon intéressante. C'est une leçon d'autant plus intéressante que le terme qui signifie domination de plusieurs, qui est ici traduit par d'avoir plusieurs seigneurs, aucun bien je n'y vois. En fait, en grec, ce que dit Homère, c'est beaucoup plus simple, c'est la polukoiranie, c'est pas bien. Voilà le texte du chant 2 de l'Iliade vers 202-204, c'est la traduction de Mason qui n'est pas versifiée. Mais si Ulysse voit un homme du peuple en train de pousser des clameurs, il le frappe de son sceptre et il le réprimande ainsi. « Fou que tu es, tiens-toi tranquille, écoute ceux qui valent mieux que toi, toi tu n'es qu'un pleutre, tu ne comptes pas plus au conseil qu'au combat. Parmi nous les Achéens, chacun ne peut pas devenir roi. Il n'est pas bon d'avoir de multiples chefs, huk agathon polukoiranie. » La polukoiranie, c'est pas beau, littéralement. La polukoiranie. La koiranie, c'est la maîtrise, la seigneurie. Et donc, au contraire, qu'un seul soit chef. Eis koiranos esto. Le koiranos, c'est le chef. La polykoiranie, c'est pas bien. Alors c'est ça, en fait, hein, la tromperie d'Ulysse, c'est de dire que ce qui est pas bien, c'est poli dans polykoiranie. Et Étienne, il nous dit non, c'est koiranie qui est pas bien. C'est le fait d'avoir des chefs qui est pas bien. Mais cet argument-là, il est important, parce que c'est celui qui permet à Ulysse de calmer le jeu. Sauf qu'il est repris par toute une tradition qui va le prendre au premier degré et qui va en faire un argument de la monarchie. Et cette tradition, Étienne la connaît. C'est une tradition qui, par exemple, met cet argument chez Suétone, le grand historien romain, dans la bouche des pires empereurs fous de la Rome impériale. Par exemple, voyez ce texte de la vie des 12 Césars dans la bouche de Caligula. Suétone écrit, jusqu'ici nous avons parlé d'un prince, un premier, un chef. Il nous reste à parler d'un monstre, c'est Caligula. Comme il entendait un jour des rois venus à Rome lui rendre hommage qui discutaient à table de la noblesse de leurs origines, il s'exclama « Eis koiranos esto, eis basileus ». Qu'il n'y ait qu'un seul chef et qu'il n'y ait qu'un seul roi. Il le sait, ça, la Boétie. Il sait très bien que ce précepte, en fait, il vient d'Homère, mais il est brandi. Et il faut voir par qui il est brandi. Suétone nous dit que c'est l'empereur fou Caligula qui le brandit. Il y a tout ça dans cet incipit de la servitude volontaire. Oui, bien sûr, il y a tout le savoir littéraire du jeune humaniste, mais c'est un savoir littéraire critique. Vous voyez les efforts qu'il faut faire pour le déplier et comprendre tous ces enjeux. Là, en fait, la Boétie est en train de nous dire, et votre vieux proverbe, il faut qu'il y ait un seul chef, vous savez d'où il vient, en fait? Vous savez par où il est passé? Vous savez ce qu'il veut dire exactement dans le texte d'Homère? Et vous avez vu quels sont les dingues qui l'ont repris depuis? Et c'est ça que vous me brandissez pour m'expliquer qu'il faut se plier à la monarchie? Voilà une application à la fois politique et savante de l'humanisme. Là, on a l'humanisme, d'une certaine manière, dans les deux sens que j'ai essayé de lui donner. À la fois comme un rapport construit au passé, et je dis rapport construit parce que c'est pas de la dévotion, c'est pas juste de l'admiration, c'est pas « qu'est-ce qu'ils sont forts, c'est grec » ou « qu'est-ce qu'ils sont forts, c'est latin ». Non, c'est un travail critique, c'est un travail de mise en contexte, c'est un travail qui dit « il faut aller voir les sources, il faut comparer les textes, il faut regarder exactement ce que ça veut dire, et vous allez avoir de surprises ». Et d'autre part, c'est un travail qui, malgré tout, continue de dire, c'est que c'est dans ce rapport-là que quelque chose se donne à penser. C'est dans ce rapport-là qu'il y a quelque chose qui se livre du contenu, cette fois éthique et politique, de l'humanisme, c'est-à-dire la défense de l'homme. Alors ce passage-là, de ce point de vue-là, est effectivement un passage très fort. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi Étienne a sauvé Ulysse, parce qu'il l'a sauvé dans son incipit. Il a dit, c'est Ulysse qui dit ça dans Homère, mais moi c'est le texte que j'attaque, Ulysse lui-même, je pense qu'en fait il était obligé de dire ça. Pourquoi est-ce qu'il a trouvé le besoin de sauver Ulysse, d'une certaine manière, dans ses premières lignes? Parce que beaucoup plus loin dans le texte de la servitude volontaire, voilà Ulysse qui revient sous une forme complètement différente. Au moment où la Boétie nous explique que nous sommes tous dans l'âge de la servitude, que nous sommes tous désormais dépouillés de notre liberté naturelle, que la coutume nous conduit tous à accepter la servitude, il ajoute, attention, en fait, il s'en trouve toujours quelques-uns qui gardent le souvenir de la liberté. Et c'est ce passage. Toujours s'en trouvent-ils quelques-uns mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne se peuvent tenir de le secouer. C'est ceux qui effectivement vivent dans l'âge de la servitude, ils sentent le poids du joug, mais en fait on n'arrive jamais à leur faire complètement oublier leur liberté naturelle et ils essayent de secouer le joug. Qui ne s'apprivoisent jamais de la sujétion et qui toujours, comme Ulysse, le revoilà, qui par mer et par terre cherchait toujours de voir de la fumée de sa case, ne se peuvent tenir d'aviser à leur naturel privilège et de se souvenir de leurs prédécesseurs et de leur premier être. En fait, le modèle ici, c'est Ulysse, et cette fois-ci non plus le Ulysse de l'Iliade, mais celui de l'Odyssée, c'est-à-dire de l'Ulyssie, parce que Odysseos, c'est le nom d'Ulysse en grec, l'Odyssée, c'est l'Ulyssie, littéralement, qui raconte le retour d'Ulysse à Ithaque, c'est-à-dire les pérégrinations d'un homme qui a un objet fixe rentré chez lui. Et la Boétie nous dit, en fait, il s'en trouve toujours dans les temps de servitude quelques-uns qui cherchent la liberté comme Ulysse cherche Ithaque, qui cherchent la liberté comme une patrie qu'il leur faut retrouver, comme un chez-soi qu'il leur faut retrouver. Vous pouvez leur imposer toutes les coutumes et toutes les habitudes que vous voulez, il n'empêche qu'ils chercheront toujours à retrouver la liberté. Voilà donc Ulysse transformé en modèle des hommes libres, en modèle de ceux qui cherchent la liberté. Voilà pourquoi il fallait commencer par le sauver. C'est un usage intéressant d'Ulysse quand on le lit comme ça dans le discours. On s'aperçoit que non, en fait, c'est vraiment un travail critique. Mais un travail critique, c'est pas un travail qui déconstruit ou qui attaque. Non, c'est un travail qui exerce son jugement, qui utilise le texte antique pour fabriquer un jugement fondé, qui est capable de dire des choses extrêmement balancées, extrêmement équilibrées, extrêmement nuancées sur la figure d'Ulysse. Néanmoins, ces hommes libres, ces mieux nés, d'un autre côté, c'est un modèle qu'il faut interroger. Est-ce que ça veut dire que justement ceux qui sont capables de se souvenir de cette espèce de patrimoine éthique et civique qu'est la liberté, c'est juste un petit groupe, une petite élite, les mieux-nés justement, les aristoi grecs, les meilleurs? Est-ce que c'est une aristocratie de la liberté qui est la seule chose qui puisse éventuellement nous sauver? C'est intéressant parce que ça pose un problème que j'ai d'une certaine manière en partie évoqué tout à l'heure quand je parlais de la sociabilité de l'humanisme. Je vous parlais de ces cénacles, ces cercles, ces petits groupes. Est-ce qu'au fond, on n'a pas là d'une certaine manière une contamination de l'idée de contenu politique de l'humanisme par l'idée de sa forme sociale? Est-ce que la représentation du conservatoire de la liberté, de la mémoire de la liberté, ne se trouve pas en partie pollué par l'idée qu'en fait ça concerne que le petit groupe de ceux qui parlent grec et latin? Ça concerne que le petit groupe de ceux qui ont eu la chance de faire ces études-là et de développer ce savoir critique-là. Parce qu'on voit bien que justement ce qui les caractérise, c'est la mémoire. Eux, ils ne se peuvent tenir d'aviser à leur naturel privilège. Ils se souviennent en fait de leur patrimoine politique et éthique. Ils se souviennent que leur héritage, c'est la liberté et qu'il faut le défendre. Et le texte se poursuit. Ce sont volontiers ceux-là qui, ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas comme le gros populat de regarder ce qui est devant leurs pieds. S'ils n'advisent, le « si » ici a le sens d'un « mais », mais ils avisent derrière et devant, et ne remémorent encore les choses passées pour juger de celles du temps à venir et pour mesurer les présentes. Voilà, eux, ils ont encore le sens du temps. C'est de ça que je parlais ce matin, en fait. Du fait que la capacité à raisonner et à conserver la mémoire de la liberté, c'est une capacité à conserver le sens du passé, du présent et du futur, le sens de la mémoire, du jugement et de l'anticipation. Et c'est ça que les tyrans essayent de couper chez les peuples qui y dominent. La Boétie ici nous dit, il y en a quelques-uns qui conservent ça, contrairement au gros populat qui, lui, l'a perdu. Et pour mesurer les présentes, ça signifie que tout ça est mis au service d'un jugement critique sur le présent, ce jugement critique que je louais chez la Boétie à l'instant. Alors cela, nous dit la Boétie, ayant la tête d'eux-mêmes bien faite, l'ont encore poli par l'étude et le savoir, cela, ils conservent la mémoire de la liberté. Cela, d'une certaine manière, l'humanisme leur est un ralliement, parce que précisément pour eux, ça incarne cette mémoire continuée. Cela, quand la liberté sera entièrement perdue et toute hors du monde, l'imaginent et la sentent en leur esprit et encore la savourent. Et la servitude ne leur est de goût, pourtant bien qu'on la coutre. Et il conclut par une tirade contre le Grand Turc, selon cette vieille lune de la pensée française qui va fabriquer le despotisme oriental comme un thème mythologique de la réflexion politique, hein, de la Boétie à Montesquieu, ça court chez tous les écrivains. L'Orient, c'est le pays de la mollesse et de la cruauté et de la servitude. Donc c'est normal, les Orientaux, en fait, depuis l'Empire perse jusqu'à l'Empire ottoman, ils sont destinés, en fait, à souffrir sous la botte d'un empereur cruel. Le Grand Turc, c'est son incarnation pour le XVIe siècle. Le Grand Turc s'est bien avisé de cela, que les livres et la doctrine donnent plus que toute autre chose aux hommes le sens et l'entendement de se reconnaître et de haïr la tyrannie. J'entends qu'il n'en s'éterre guère de gens savants, ni n'en demande. Là, vous avez un vrai éloge du savoir. Un vrai éloge du savoir et de la mémoire comme fonction de résistance de la liberté contre la servitude. Dans un traité qui ne nous dit pratiquement à aucun moment comment résister à la puissance asservissante de la coutume, c'est la seule petite lueur, hein, d'une certaine manière. C'est le seul moment où la Boétie dit « si, il y en a quelques-uns qui ». Mais cette petite lueur, elle semble réservée à une toute petite élite, cette capacité à lutter, à une toute petite élite lettrée. Et encore un peu plus loin, la Boétie va dire « mais cela, en réalité, ils restent singuliers en leur fantaisie ». Ils peuvent imaginer la liberté chacun dans leur coin, mais ils se sauvent eux-mêmes. Ils ne sont pas une puissance véritablement politique. Alors là encore, je n'ai pas de solution à donner. J'observe simplement qu'il y a aussi chez la Boétie une autre défense de la dignité de l'homme. Pas celle-là, pas celle qui consiste à faire l'éloge de quelques bien-nés, celle qui consiste à considérer, au contraire, la solidarité et la fraternité de la nature humaine tout entière. Voilà le passage, il est un peu long, mais il mérite d'être lu, c'est une des plus belles pages de la servitude volontaire. C'est un passage dans lequel la Boétie nous dit « Si on examine les droits que la nature nous a donnés, on voit qu'en fait, il n'y a que deux types de subordination qui sont naturels, c'est l'obéissance aux parents et la soumission à la raison. Sinon, il n'y en a pas, il n'y en a aucune. » Et d'ailleurs, quand on regarde ce que la nature a voulu faire de nous, on s'aperçoit qu'elle n'a pas voulu faire de nous des esclaves. Mais s'il n'y a rien de clair et d'apparent en la nature, et où il ne soit pas permis de faire l'aveugle, c'est cela que la nature, la ministre de Dieu, la gouvernante des hommes, nous a tous fait de même forme et comme il semble, à même moule, afin de nous entreconnaître tous pour compagnons, ou plutôt pour frères. Cette affirmation de la fraternité, qui est une affirmation de l'universalité de la forme humaine, elle a un écho chez Montaigne, je porte la forme entière de l'humaine condition, et cet écho est une des premières représentations de l'universalité de la dignité humaine dans la pensée française. En fait, quand on essaye de comprendre dans la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, ce que sont l'essence de ces trois termes, liberté est un concept sur lequel les philosophes ont glosé de façon absolument ininterrompue depuis l'Antiquité, égalité aussi, les philosophes, les juristes, les historiens. Fraternité, c'est plus compliqué. Ce texte de la Boétie, il nous donne une clé de ce que signifie fraternité. Et c'est ce que va développer la Boétie dans la suite. Et si faisant les partages des présents qu'elle nous faisait, elle, la nature toujours, a fait quelque avantage de son bien, soit au corps ou en l'esprit, aux uns plutôt qu'aux autres. Autrement dit, si elle a constitué des inégalités naturelles entre nous. Vous savez, c'est cette même question à laquelle 200 ans plus tard, Rousseau répondra, posée par l'Académie de Dijon. Quelles sont l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ? C'est ce discours de Rousseau qui préfigure le contrat social. Il répond à la même question. Est-ce qu'il y a une inégalité naturelle parmi les hommes et qu'est-ce qu'elle signifie ? La Boétie, il a une réponse dès 1554. Si la nature a créé des inégalités entre nous, si n'a-t-elle pourtant entendu nous mettre en ce monde comme en un camp clos et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts ni les plus avisés comme des brigands armés dans une forêt pour y gourmander les plus faibles ? Mais plutôt faut-il croire que faisant ainsi les parts aux uns plus grandes, aux autres plus petites, elle voulait faire place à la fraternelle affection afin qu'elle eût tout s'employer, ayant les uns puissance de donner aide, les autres besoin d'en recevoir. Les inégalités naturelles sont constituées, mais elles ne sont pas une preuve du fait qu'il y a des maîtres par nature ou des esclaves par nature, comme le voulaient les anciens, comme le voulait Aristote, comme Cicéron lui-même le soutenait sans aucun problème. Non, les inégalités naturelles entre les hommes sont la preuve de la fraternité, parce que les inégalités créent du besoin chez les uns et la capacité de répondre à ce besoin chez les autres. C'est la seule interprétation possible des inégalités que la nature a placées entre nous. Et la conclusion va donc désormais d'elle-même. Puis donc que cette bonne mère nous a donné à tous la terre pour demeure, nous a tous logés aucunement en même maison. En même maison est une expression qui doit résonner tout particulièrement pour nous aujourd'hui, évidemment. Hein, le fait que nous n'ayons qu'une maison, qu'un oikos en grec, que notre écosystème soit commun, évidemment, a un écho qui n'avait pas chez la Boétie. Puisque cette bonne mère donc nous a logés aucunement en même maison, aucunement signifiant ici en quelque façon, nous a tous figuré à même patron, forme, moule, patron, c'est le même mot, un mot de tailleur, un mot d'artisan, un mot de confectionneur, en fait. Hein, on est tous taillés sur le même modèle, afin que chacun se pût mirer et quasi reconnaître l'un dans l'autre. Alors je m'arrête un instant sur ce point. On a vu plus haut, elle nous a fait à même moule afin de nous entreconnaître tous pour compagnons ou plutôt pour frères. Et on a ici, elle nous a fait sur le même patron, afin que chacun se pût mirer et quasi reconnaître l'un dans l'autre. Entreconnaître, reconnaître, voilà ce qui est attendu de nous et qui constitue, en fait, cette fois-ci du point de vue de ce que j'appelais en commençant tout à l'heure le corpus de valeurs éthiques et politiques, le cœur de l'humanisme. Le cœur de l'humanisme, c'est la capacité de reconnaître l'humain dans l'autre. C'est la capacité d'entreconnaissance ou de reconnaissance. C'est un point qui est essentiel et qui est d'une très grande originalité en réalité dans son traitement dans le discours. Dans un an, les 10e rencontres internationales de la Boétie qu'on organise à la SIALB ici à Sarlat, elles porteront précisément là-dessus, sur la question de la reconnaissance dans la servitude volontaire. Cette entreconnaissance, donc, qui s'ajoute au grand présent de la voix et de la parole, fait pour nous accointer et nous fraterniser davantage, et faire par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées une communion de nos volontés. Et si elle, toujours la nature, attachée par tout moyen de serrer et étreindre si fort le nœud de notre alliance et société, si elle a montré en toute chose qu'elle ne voulait pas tant nous faire tous unis que tous un, alors, après cette très longue protase, voilà la brève apodose, il ne faut pas faire de doute que nous soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons, et ne peut tomber en l'entendement de personne que nature ait mis aucun en servitude, nous ayant tous mis en compagnie. Magnifique. Là, on a... Ah, voilà, si... j'aurais pu commencer par là, au fond. J'aurais pu commencer par là, j'aurais pu commencer par ce texte sur lequel je finis, finalement. J'aurais pu commencer par ce texte et dire, ben voilà, l'humanisme de la Boétie, c'est ça. La défense de la dignité humaine chez la Boétie, c'est ça. Mais ça n'aurait pas été très juste, parce qu'en fait, l'humanisme de la Boétie, c'est la tension entre cette définition universelle de la fraternité et la tentation de l'élitisme du petit nombre qu'on a vu dans la citation précédente. L'humanisme de la Boétie, c'est la tension entre Ulysse qui ment au chef des Achéens pour éviter la tromperie d'une tromperie d'une tromperie, et Ulysse qui cherche partout la fumée de sa case et qui devient le modèle de notre recherche de la liberté. Ce qui m'intéresse chez la Boétie, c'est ce grand écart qu'il fait entre des figures qui ne nous semblent pas réconciliables. Et si j'avais commencé sur ce texte, je vous aurais dit l'humanisme c'est ça. Et en fait, il me semble que ce qui est intéressant, c'est que l'humanisme c'est ni ceci ni cela. L'humanisme, c'est la démarche intellectuelle qui consiste à accepter de penser dans cette tension-là, dans cet écart-là. Il y a un dernier écart que je trouve frappant et qui les résume peut-être tous, et c'est celui sur lequel je voudrais conclure, c'est celui-ci. Voilà ce que la Boétie dit quand, après avoir beaucoup enquêté, il finit par exhiber la véritable raison de la servitude volontaire. Il dit « Disons donc ainsi qu'à l'homme, toutes choses lui sont comme naturelles, à quoi il se nourrit et accoutume. Mais cela seulement lui est naïf, à quoi sa nature simple et non altérée l'appelle. » C'est en réalité un texte d'une excessive difficulté. Ça fait 20 ans que je le commente, dans des séminaires, dans des articles, dans des cours. En fait, c'est un texte d'une excessive difficulté. Il oblige à distinguer entre la nature humaine et la naïveté originelle, naïveté signifiant dans la langue du XVIe siècle, naturalité, l'état, plus exactement, de notre naissance. En fait, naïveté signifie nativité, littéralement, l'état dans lequel nous naissons. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire cette distinction? Parce que ce que nous dit la Boétie, c'est que nous avons cette capacité phénoménale à prendre nos habitudes pour la nature, à considérer qu'est naturel ce à quoi nous sommes accoutumés. C'est ce que, au fond, Montaigne dit aussi dans le chapitre des cannibales des essais. Quand il parle des Indiens qu'on vient de découvrir de l'autre côté de l'océan, il dit « mais au fond, on appelle barbare juste ce qui n'est pas notre coutume. On considère comme nature, un ensemble d'habitudes, un ensemble d'accoutumances. La nature, c'est le nom que l'on donne à nos coutumes pour les sanctifier et les protéger. La nature, c'est ce qui nous permet d'hypostasier nos coutumes, c'est-à-dire d'en faire des substances, de dire non, oula, ça c'est naturel. Et tout ce qui nous semble être vraiment le cœur de nos adhésions morales et politiques, de nos valeurs éthiques, qui en réalité est lié à des accoutumances, nous le planquons dans le coffre-fort que nous appelons la nature. Alors ça varie d'époque en époque ou de pays en pays. Il y a des époques où on dit « Ah mais non, en fait, des gens de même sexe qui s'aiment, ah non, ça c'est pas la nature, c'est contre-nature, c'est pas la nature. » Et on va planquer le modèle de l'amour hétérosexuel dans le coffre-fort qu'on appelle la nature. À d'autres époques, on va dire « Voilà, telle manière de manger, c'est naturel, les autres manières, c'est pas naturel. Telle manière de s'habiller, c'est naturel, l'autre, ça l'est pas. Puis ça va varier. Ça va varier, comme dit Pascal, de pays en pays, plaisante justice qu'une rivière borne, puisqu'elle va changer selon le territoire même sur lequel elle s'appliquera. Ça, c'est le mauvais usage que nous faisons de la nature. La seule chose qui soit naturelle, nous dit la Boétie, c'est ce qui est de nous dans le point même de notre naissance. C'est ça, notre état naïf, ce à quoi notre nature simple et non altérée nous appelle. Mais en fait, cette nature simple et non altérée, nous ne la connaissons jamais, parce qu'à la seconde où nous naissons quelque part, à une époque, dans un monde social. Ça, Cicéron le dit déjà, nous suçons l'erreur avec le lait de nos nourrices. Et un certain René Descartes le répétera un peu moins d'un siècle plus tard en disant « S'il faut que je fasse tout ce travail de doute et de recherche du premier principe, c'est parce que nous avons été enfants avant que d'être hommes et que nous n'avons pas eu l'usage entier de notre raison sur le point de notre naissance. » La Boétie, d'une certaine manière, est un des premiers philosophes français à accorder toute son importance à ce phénomène fondamental qui est celui de la naissance. Face à une philosophie morale qui a toujours eu une très très forte tendance à raisonner sur la mort et sur l'importance de la pensée de la mort pour avoir une vraie morale, voilà une génération de philosophes qui nous dit qu'en réalité, le vrai phénomène sur lequel il faut penser pour fonder une morale, c'est la naissance, c'est pas la mort. C'est en tant que nous sommes des êtres de naissance que nous avons toutes ces questions-là à nous poser. Parce que précisément, à l'instant où nous naissons, nous commençons à nous transformer. Et donc, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. C'est le fait que si nous naissons dans un temps de servitude, ce temps pour nous est la nature. Ce temps pour nous est normal. La coutume, voilà l'ennemi. Il faudrait pouvoir rester dans la pureté de la naissance. Je vous avoue que j'ai un problème avec cette idée. Il faudrait pouvoir se tenir dans la pureté de la naissance, ça me fait passer dans les fils un frisson désagréable. J'ai été éduqué de telle façon que ce genre de propos allume chez moi des sonnettes d'alarme nombreuses. Mais non, justement, là encore, ce qui est intéressant chez la Boétie, c'est pas de penser ceci ou de penser cela, c'est de nous obliger à nous tenir dans un certain écart. Parce que voilà ce que la Boétie a écrit quelques pages plus haut. De la raison, puisque c'est de ça qu'on parle depuis le début, de la raison si elle naît avec nous ou non, ce qui est une question débattue à fond par les académiques et touchée par l'école des philosophes, manière pour la Boétie de dire, je sais que c'est un sujet très technique, mais moi je m'en occupe pas, tiens, finalement il n'était pas si scolaire que ça, les questions scolaires ça n'intéresse pas. Si c'était vraiment la dissertation d'un collégien, il n'aurait pas juste écarté ce débat-là en disant « Oui, oui, ça c'est super important, mais ça ne m'intéresse pas. » Pour cette heure, je ne penserai pas point faillir en disant cela. Je vais me borner à dire que « Il y a en notre âme quelque naturelle semence de raison, laquelle, entretenue par bon conseil et coutume, fleurit en vertu, et au contraire, souvent ne pouvant durer contre les vices survenus, étouffée, s'avorte. » Voilà. Une thèse au fond très classique sur la naissance de la raison, c'est la thèse séminale, c'est la thèse qui dit qu'en fait la raison existe dans tous les humains à titre de germe, et puis après, à nous, de la faire fructifier ou pas, de la faire pousser ou pas. Cette vieille métaphore végétale, c'est celle qui définit en fait, dans notre culture, le sens même du mot culture. Parce que culture, en fait, à l'origine, est une métaphore agricole de Cicéron dans les Tusculanes. Une métaphore dans laquelle Cicéron dit, au fond, il en va de l'esprit comme d'un champ cultivé, qui n'est rien, sine cultura. Et cultura, ça signifie, dans le latin de Cicéron, agriculture. Sauf que la métaphore va tellement bien prendre et tellement bien marcher, qu'au bout de quelques décennies, quand on dira cultura, on parlera de la cultura animi, la culture de l'esprit, et il faudra ajouter agricultura, culture des champs, devant cultura, pour qu'on comprenne qu'on parlait de la culture, culture. Donc en fait, la culture, c'est le truc par lequel on se fait pousser, littéralement. C'est la chose, le labeur, l'effort par lequel on produit nous-mêmes notre propre humanité. On est les jardiniers de l'humain, si vous voulez, aux yeux de Cicéron. Et cette idée-là, les humanistes de la Renaissance vont l'adorer. On va la retrouver chez Pétrarque, chez Pic, chez Erasme, chez Budé, chez la Boétie lui-même. Ces semences de raison en sont, en fait, une très ancienne réminiscence. Oui, mais que dit du coup la Boétie ici? Quel est l'outil du jardinier? Quelle est la serpette? Quelle est la binette avec laquelle il faut que nous nous jardinions, si vous me passez l'expression? J'aime bien finir cette conférence en vous disant qu'il faut qu'on se jardine avec une binette tous. Je trouve que c'est pas mal. C'est la coutume. C'est cette même coutume qu'on vient d'accuser de tous les maux. C'est cette même coutume dont on vient de dire qu'elle était la raison de la servitude volontaire. C'est entretenu par bon conseil et coutume que les semences de raison vont fleurir en vertu. Voilà l'écart dans lequel il me semble que la Boétie nous impose de nous tenir. S'il faut que nous soyons nous-mêmes les producteurs de notre propre humanité, Et on comprend ce que je disais en commençant sur le post-humanisme ou le transhumanisme, sur la question de savoir si l'humain n'est pas en train de se transformer ou de passer. La réponse de la Renaissance, c'est mais il est toujours en train de passer, de se transformer. Il est toujours en train de devenir autre chose que lui-même. Quel est le premier philosophe à avoir utilisé le verbe transhumaniser ? Dante, dans le Conte Vivio, qui dit la poésie, ça sert à transhumanar, ça sert à transhumaniser, à transformer l'humain. Pour les humanistes, cette transformation, elle a toujours été le sens même de l'humain. Nous sommes les créatures qui ne sommes rien et qui ne devenons tout le temps. Notre responsabilité, c'est de savoir quoi. La grande force de l'humanisme, c'est, une fois qu'on a dit ça, de ne pas nous donner une réponse. De ne pas nous dire, ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce but-là qu'il faut viser. La grande force de l'humanisme, et c'est par là que la Boétie humaniste, c'est, dans tous les extraits que je viens de vous montrer, on le voit, de nous obliger à nous tenir dans un écart. De nous souvenir que la coutume, c'est ce qui nous nature et ce qui nous dénature. C'est l'outil de notre corruption et c'est en même temps l'outil de notre humanisation. De nous souvenir que le contenu politique le plus beau, le contenu éthique le plus digne, le plus universel de l'humanisme, celui qui chante la liberté, l'égalité et la fraternité, il peut aussi en vérité n'être réservé qu'à un petit groupe d'élus. Et dans cette tension-là, je vois l'anticipation de ce que je disais en commençant, la critique de l'humanisme en tant que doctrine pensée par des Européens blancs qui étaient en train de conquérir le monde. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il ne faut pas se voiler les yeux non plus. C'est un peu plat hein, comme conclusion. Mais c'est ça que nous dit la Boétie. La Boétie nous dit, tenez-vous dans les entre-deux. Pensez dans les tensions. Assumez les paradoxes. Une époque qui veut des réponses uniques et qui refuse de regarder en face ces tensions et ces paradoxes. Une pensée qui refuse de se tenir dans ces écarts et qui refuse d'avoir à faire des choix, c'est une pensée qui a quitté la voie de l'humanisme. C'est le seul message que je pense qu'on soit en droit de lire dans le texte d'Étienne de la Boétie. Merci de votre attention. J'aurais bien fait un drop the mic, mais j'ai peur que les techniciens soient pas contents. Lâchez le micro à la fin d'une prise de parole. Mais... Oui, c'est la question que j'allais poser. J'allais poser la question des questions. Ah ben, il y a le HF.
Passer le micro qui souhaite intervenir. Tout d'abord, merci monsieur pour la richesse de votre propos que vous avez parfaitement élucidé. Le texte reste effectivement très très difficile, mais j'ai une question par rapport à l'expression droit naturel.
On est d'accord, je n'ai pas cité le passage en question, hein, il me semble. Si ? Non. En fait, c'est un passage très intéressant de la servitude volontaire, puisque c'est un passage dans lequel la Boétie dit, au fond, Je le cherche parce qu'il faudrait que je puisse vous citer la phrase exacte pour vous faire une réponse. La Boétie nous dit on ne devrait rien avoir de plus cher que de se remettre... Voilà, c'est ça. C'est un moment dans lequel la Boétie dit si jamais, pour retrouver sa liberté, il fallait faire quelque chose, je comprendrais que les hommes ne fassent rien, mais regardez, en fait... Tous les tyrans n'ont de force que celles qui prennent à vous qu'ils oppriment. Il suffit d'arrêter de les soutenir et vous voilà libre. Cessez de vous soumettre et vous voilà libre. Et il conclut, ce sont donc les peuples mêmes qui se laissent, ou plutôt se font gourmander, avec le balancement du « ils se laissent », non, en fait, ils se font gourmander, puisqu'en cessant de servir, ils en seraient quittes. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être serf ou d'être libre, quitte sa franchise et prend le joug, qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse. Et il ajoute, s'il lui coûtait quelque chose à recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais point. Combien qu'est-ce que l'homme doit avoir plus cher que de se remettre en son droit naturel et par manière de dire de bête revenir homme. Et là, il y a toute une glose sur ce passage qui dit « Ah mais en fait, la Boétie est l'inventeur de l'idée de droit naturel. » C'est une des premières occurrences de l'expression « droit naturel » en français, en tout cas, puisque en réalité, l'idée de droit de la nature est une idée qui est agitée par les juristes, les casuistes et les théologiens espagnols, en particulier dans l'école de Salamanque, depuis un petit moment déjà. Et c'est eux qui sont en réalité la vraie matrice de la réflexion sur le droit naturel. Mais surtout, les droits que la nature nous a donnés ne sont pas des droits naturels au sens des argumentations des philosophes du XVIIIe siècle, au sens de Pufendorf, de Rousseau, de Montesquieu. Et cette expression même est très intéressante parce que elle dénote un piège d'oreille pour nous. Nous, en fait, quand on entend droit naturel, il est évident que le substantif c'est droit et que l'adjectif c'est naturel. Mais quand la Boétie dit se remettre en son droit naturel, il y a de fortes chances que pour lui ce soit droit l'adjectif et naturel le substantif. C'est se remettre dans son naturel droit. Et donc je ne pense pas qu'il y ait une pensée du droit naturel au sens moderne chez la Boétie. Je pense qu'il faut retourner cette expression pour la comprendre. Voilà, c'est ça ma réponse. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que s'il y avait des droits naturels, quand il y a des droits naturels, au fond, on a un compte ouvert à la banque de la nature et on peut réclamer la revendication de ces droits. Ce que la Boétie nous dit, c'est non, c'est nous qui les fabriquons. C'est nous qui les fabriquons. La nature, elle a donné les conditions. Les conditions, c'est voilà, vous êtes là. La terre est à vous. Vous avez la parole et vous avez ces inégalités qui vous poussent à vous entraider. Allez-y, faites. Naturez-vous ou dénaturez-vous, mais n'en attribuez la responsabilité à personne d'autre que vous. Les droits de nature ne sont pas des droits qu'on pourrait revendiquer. Il faut, de ce point de vue-là, avoir le même regard critique sur les droits naturels que sur toutes les autres formes de naturalisation des mœurs, des valeurs ou des coutumes que j'ai évoquées tout à l'heure. Les droits ne valent pas en tant qu'ils sont naturels. Les droits valent en tant qu'ils sont institués, garantis et protégés par des humains entre eux. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une communauté civique qui me reconnaît des droits par nature. J'ai envie de vivre dans une communauté civique qui me reconnaît des droits parce qu'elle dit on est tous des humains et on va partager cette culture-là qui dit ces droits-là. J'ai envie de dire qu'on a des droits qui sont des acquis et qui sont des acquis humains qu'on a négociés ensemble et sur lesquels on s'est mis d'accord ensemble. Je serais beaucoup plus fier de ces droits-là que de droits qui seraient hypothétiquement accordés par la nature, la ministre de Dieu et la gouvernante des hommes. Les seuls gouvernants des hommes, c'est les hommes.
J'aurais volontiers rebondi sur cette question autour de la notion du droit en demandant, vous avez insisté, à très juste titre en mon sens, sur la notion de dignité de l'homme. Alors, de même qu'il n'existe pas encore un corpus du droit naturel au sens où ensuite il va être échafaudé, bâti, et je dirais ensuite coulé dans le bronze par Pufendorf et les modernes, est-ce que par contre il existe un embryon de cette notion de dignité de l'homme, puisqu'on voit apparaître la locution, évidemment en latin à ce moment-là, de dignitas homini. Mais j'aimerais savoir si celle-ci est documentée et si elle se perçoit, sinon comme un corpus, au moins comme un concept en gestation.
Tout à fait.
Parce qu'elle peut paraître très importante.
Elle est très importante.
Et en corrélation avec d'autres auteurs.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Alors, pour vous répondre d'un mot, oui, ça existe. Oui, c'est documenté, et dans un texte qui a d'ailleurs été très régulièrement décrit comme une sorte de manifeste de l'humanisme, c'est intéressant. C'est un texte qui est antérieur d'une soixantaine d'années à celui de la Boétie, qui est produit par un autre surdoué de l'humanisme, mais italien celui-là, qui s'appelle Pic de la Mirandole, Giovanni Pico della Mirandola, jeune comte, alors là, pour le coup, c'est un vrai noble, richissime, surdoué, qui apprend les langues à une vitesse phénoménale et qui, outre le latin et le grec, va se mettre à l'araméen, à l'arabo-caldéen, à l'hébreu, etc., etc. Et puis qui va faire une espèce de tour d'Europe dans lequel il va s'intéresser et s'initier quasiment à toutes les sciences, y compris d'ailleurs à ce qu'on appellerait nous des pseudo-sciences. Il va s'intéresser à la géométrie comme à l'alchimie, à la cabale, aussi bien qu'à l'astrologie ou à l'astronomie ou à la science naturelle, la métaphysique, la théologie, tout. Il cherche quelqu'un pour lui apprendre l'arabe et l'aider à traduire le Coran, en même temps qu'il médite les pères de l'Église. Enfin, il s'intéresse à tout. C'est un prototype de cette forme simple mais radicale de l'humanisme qui est le « sachons-tout », dont Boris Vian se faisait encore l'écho dans le Saint-Germain-des-Prés des années 50, en s'intitulant humaniste, précisément sous cette forme-là. « Sachons-tout », c'est ça, le motto de l'humanisme. Et quand il revient de son périple, Pic de la Mirandole rédige une espèce de synthèse extraordinaire qu'il appelle les 900 conclusions. C'est un ensemble de 900 thèses qui essayent de mêler et de faire converger tous les savoirs du monde. Et il a l'idée extraordinaire de proposer une espèce de débat public, de soutenance de ces 900 thèses devant tous les savants d'Europe qui voudront venir en débattre avec lui à Rome. Et comme il est richissime, il propose de leur payer le voyage et l'hébergement à tous. Et puis le Vatican dit... Non, attendez, là-dedans, il y a des trucs, c'est la cabane, il y a des trucs, c'est le Coran, il y a des trucs, c'est de l'hérésie. Non, vous défendez pas du tout ces thèses-là, vous débattez pas de ça en public. Et il est accusé d'hérésie, il va même être embastillé, c'est un proche de la famille de Médicis qui le défend et le protège. Mais enfin, il finira quand même assassiné dans des conditions extrêmement mystérieuses. Entre-temps, il a rédigé un petit texte qui est conçu comme une apologie de son projet et qui est précisément intitulé « Le De Dignitate Hominis », le traité de la dignité de l'homme. Et dans ce traité, il dit une chose absolument extraordinaire qui va exactement dans le sens de ce que je montrais à l'instant. Il commence le traité de la dignité de l'homme, il est traduit en français dans les œuvres de Pic, dans une grosse édition savante au PUF, mais il en existe une petite édition séparée aux éditions de l'Éclat, un tout petit livre qui est toujours imprimé, qui est toujours édité, avec une très très belle introduction d'Iversan. Si vous avez envie de lire ce tout petit texte qui est très accessible et très poétique, je vous y engage. Dans le début de ce texte, Pic de la Mirandole propose une prosopopée. C'est-à-dire qu'en fait, il fait parler, il imagine un discours dans lequel Dieu s'adresse à Adam. Et que dit Dieu à Adam au début de la dignité de l'homme? Qu'est-ce que Pic fait dire à Dieu au début du traité de la dignité de l'homme? Pic fait dire à Dieu, écoute Adam, toi, contrairement aux autres créatures, je t'ai pas donné de nature, je t'ai pas donné d'essence. Contrairement aux autres créatures qui sont enfermées dans les bornes d'une essence, toi, je t'ai pas donné d'essence, je t'ai pas donné de nature, je t'ai placé au milieu du monde pour que tu te définisses toi-même comme tu le veux, par tes propres forces, à la manière d'un peintre ou d'un sculpteur. Tu pourras t'élever ou dégénérer, c'est tes affaires. Mais toi, ton boulot, c'est de te définir. L'humanité, c'est à toi de la fabriquer. Le cheval, je lui ai pas laissé le choix, il est enfermé dans les bornes de la chevalinité. Le cerisier, c'est pareil. Toutes les créatures naturelles sont dotées d'une nature et d'une essence. Pas toi. Toi, en revanche, tu peux te produire toi-même. S'il y a un contenu doctrinal de cette notion de dignité dont je suis d'accord avec vous pour affirmer qu'elle est centrale, c'est dans ce texte-là que j'irai l'identifier, et sous cette forme-là.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, ben alors, nous allons rester là. Nous allons applaudir notre conférencier.
Merci beaucoup.
L'Université du temps libre de Sarlat et la Société, et j'insiste, internationale des amis d'Aboétie. Merci encore à vous qui avez accepté de venir, et merci à ceux qui ont été présents. Et franchement, je suis très heureuse du nombre de personnes qui sont ici présentes. J'estime à une centaine.
Je vais ajouter un mot, si vous me le permettez, justement, parce que j'enlève ma casquette de conférencier, je mets ma casquette de secrétaire de la Société internationale des amis de la Boétie, depuis une petite dizaine d'années maintenant.
Votre société a 20 ans, c'est ça?
Elle a fêté ses 20 ans l'an dernier, elle a 21 ans. C'est-à-dire qu'on est majeur même sous Giscard, désormais. C'est bien. La société a été créée il y a 21 ans, sous les auspices de Frédéric Guimizan, qui est là-bas au fond, hein,
oui,
voilà,
là, oui.
Qui était alors libraire rue Fénelon, à l'Orange Bleu. Exactement. Et elle a très très rapidement fédéré un grand nombre d'universitaires, d'enseignants-chercheurs de différentes disciplines. Moi je le dis, je suis philosophe, d'autres sont littéraires, d'autres sont sociologues, anthropologues, etc., etc., qui viennent de tout un tas d'universités différentes. Au début, il y avait essentiellement des gens de Lyon, de Bordeaux, de Toulouse, de Tours. Désormais, c'est beaucoup plus large. On a aujourd'hui un de nos amis italiens qui nous a rejoint, Francesco. Le président actuel de la société, John O'Brien, est anglais. On a des correspondants aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Mais néanmoins, il est extrêmement pour nous depuis le début que nos réunions annuelles et nos colloques bi ou triannuels se tiennent systématiquement à Sarlat. Parce que c'est une ville sans université. Et c'est pour nous un terrain neutre. Un terrain sur lequel les passions universitaires, et pour les vivre de l'intérieur, je vous jure que c'est pas très beau, c'est pas très propre, c'est pas génial, sont suspendues. Et donc c'est pas seulement un souci du patrimoine ou du territoire. Après tout, on peut penser la Boétie partout. On peut penser la Boétie sous n'importe quel ciel. C'est aussi le fait qu'il est important pour nous de faire en sorte que cette hauteur-là vive aussi dans l'endroit qu'il a vu naître. et que ce rapport complexe et critique à la mémoire que j'ai évoquée tout à l'heure, il s'incarne comme ça. Et donc je voudrais en profiter, d'abord pour vous dire à quel point on est très heureux justement de cette action conjointe entre l'Université du Temps Libre et la Société internationale des Amis de la Poésie, parce que des associations locales qui défendent l'intérêt et le plaisir du savoir, elles avaient intérêt à se rencontrer. Et puis comme on est dans la très belle salle de l'ancien évêché, je voudrais aussi en profiter pour tirer un coup de chapeau à Marc Pintatouré, qui est là aussi, qui est l'adjoint à la culture. On a eu pendant plusieurs années du mal à établir des relations entre la société La Boétie et les différentes municipalités qui se sont succédées. Et je voudrais remercier Marc, en profitant du fait qu'on est nombreux, de la façon dont il nous soutient depuis plusieurs années. On va tout à l'heure avoir, ici même, une fois que vous nous aurez quittés, une réunion avec lui pour parler des futurs projets de la SIAB avec la mairie de Sarlat. Et donc ça me paraissait important de rappeler publiquement à quel point on est heureux d'avoir ce contact-là avec lui, et à quel point on est heureux, quelles que soient les universités plus ou moins lointaines d'où on vient, qu'on en vienne chaque année pour se retrouver ici et pour parler dans les murs de Sarlat, d'Étienne, de la voix d'Étienne et de la mairie d'Étienne.